Vous écoutez RTL.
Bonjour Anaïs Bouton et bonjour Thomas Hugues.
Bonjour Christelle.
Bonjour Christelle, on est ensemble jusqu'à 15h sur RTL. On a encore plein de surprises, de découvertes, de révélations, comme tous les jours et comme tous les jours avec Anaïs. Ça va Anaïs ?
Oh, ça va parfaitement bien. Bonjour Thomas, salut les curieux. Alors vous le savez, on aime les grands destins et tout à l'heure, celui de Nelson Mandela. Vous savez Thomas que son vrai prénom c'est Rolihlahla. C'est pas que je suis épuisée rien qu'à vous regarder, mais ça voulait dire celui qui cause des problèmes. Et il en a causé un gros problème au régime de l'apartheid. Il a fait tomber l'apartheid. Vous allez découvrir ça à 14h30.
Mais d'abord, on se déchire chez les Hallyday.
La plus grande rockstar que la France ait connue, Johnny Hallyday, est décédé cette nuit à l'âge de 74 ans.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
C'est son épouse Laetitia qui vient de le déclarer à l'AFP. Johnny Hallyday est parti, j'écris ces mots sans y croire et pourtant c'est bien cela, mon homme n'est plus, il nous quitte cette nuit, c'est ce qu'a écrit Laetitia Hallyday.
RTL.
J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner.
La curiosité est un vilain défaut.
De ma foire à sa table.
Bonjour Léna Luteau.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro. Vous enquêtez depuis de longs mois sur ces querelles d'héritage après la mort de Johnny. Vous étiez d'ailleurs au tribunal de Paris ce matin, parce qu'il y avait une audience qui était très attendue. Que réclamaient David et Laura ? Vous pouvez nous le rappeler ?
David et Laura réclamaient le gel des royalties de Johnny Hallyday, c'est-à-dire les sommes qui lui sont versées en tant qu'interprète par ses trois maisons de disques. Et ils réclamaient aussi les documents qui liaient ces maisons de disques à Johnny, c'est-à-dire ses contrats, et puis les édition de compte.
Pour bien prendre conscience de ce que ce dossier charrie comme intérêt aujourd'hui, est-ce que vous pouvez juste nous faire la liste des avocats qui étaient là ?
Oh là là, il y en avait plein.
Sans donner les noms, mais qui étaient représentés ?
Eh ben, il y avait donc un avocat pour chacune des maisons de disques. Il y avait l'avocat de la Bank of America qui, jusqu'à récemment, gérait les intérêts de Laetitia aux États-Unis. Il y avait les deux avocats de Laetitia, les deux avocats de David, les deux avocats de Laura.
Bon, ça dossier
10 avocats, en fait.
Complexe, on l'a compris. Décision rendue le 18 décembre prochain.
Thomas le disait, c'est un dossier complexe entre deux continents en plus. Alors, quelles sont les prochaines étapes judiciaires aux États-Unis, par exemple ?
Donc, en France, la prochaine, c'est le 18 décembre. Mmh. Ensuite, normalement, à moins d'un rebondissement, parce qu'il y en a quasiment tout le temps, mais la prochaine audience aux États-Unis, elle est prévue au tribunal de Californie à Los Angeles le 22 janvier. Et ensuite, vous avez le procès qu'on attend tous, qui est le procès sur le fond et qui, lui, est à Nanterre à partir du 22 mars.
Procès sur le fond, c'est pour savoir si on parle en droit américain ou en droit français, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Exactement, c'est savoir si Johnny avait le droit de signer un testament américain.
Alors, ça démarre quand ? Ça démarre avant la mort de Johnny, finalement. Depuis quand cette famille, qui est apparemment unie, commence à se déchirer ?
Les vrais déchirements, ça commence quand Johnny a failli mourir à Los Angeles, au Cedars-Sinai Hospital,
Décembre 2009.
Décembre 2009. À cette époque-là, Laetitia découvre les comptes de leur couple et s'aperçoit que financièrement, ça ne va pas bien et qu'il faut absolument mieux gérer leurs affaires et que si Johnny meurt, elle aura quasiment rien. Donc ça, c'est son état d'esprit à elle. Après, vous avez David qui débarque et qui est furieux dans le couloir de l'hôpital de voir toutes les célébrités qui sont là et tous les journalistes et qui se disputent très violemment avec Laetitia. Et ça part vraiment de là.
Est-ce qu'on peut dire que Laetitia a changé après cet épisode ? Est-ce qu'elle est devenue plus puissante, vous voyez ce que je veux dire, dans le cercle familial ?
D'après les proches amis de Laetitia, qui aujourd'hui ne le sont plus, leur meilleure amie a beaucoup changé à ce moment-là. Ils ne la reconnaissent plus aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, elle a eu...
C'était qui ses amis ? Vous pouvez le dire ou vous pouvez pas
non,
le dire ?
Non, je ne peux pas le dire parce qu'ils ne voulaient pas être cités. Et donc, elle a pris en charge l'organisation de son mari, aussi bien donc, à la maison qu'au niveau professionnel. Elle a changé tout l'entourage. Elle a fait venir ce nouvel avocat, elle a fait venir des nouveaux attachés de presse, Sébastien Farran, le manager, et elle a tout pris en main. Et en fait, je pense que Johnny dépendait affectivement d'elle. Après avoir failli mourir, il avait besoin d'elle.
Alors vous publiez donc « Ils se sont tant aimés » aux éditions Albin Michel. D'ailleurs, ils se sont vraiment un jour aimés.
Moi je pense que oui. Je pense que Laura adore son père, David aussi. Johnny aimait beaucoup ses enfants. Laetitia, Johnny, c'est une grande histoire d'amour. Oui, oui.
C'est pour ça que c'est aussi triste, ce qu'on vit depuis un an. En fait.
Alors, vous racontez notamment les derniers jours du chanteur. Est-ce que David et Laura, on entend beaucoup qu'ils ont été tenus à l'écart ces derniers jours? Est-ce que c'est vrai ça?
Les derniers jours de Johnny, Laura et David n'ont pas subi le même traitement. Donc David, lui, il a pu voir son père régulièrement, mais simplement quand il débarquait dans la maison, toutes les portes étaient fermées, il entendait des gens qui parlaient derrière les portes, c'était pas très agréable. Laetitia, elle dit oui, enfin, il venait, il n'était pas annoncé, c'était casse-pied. Et le dernier soir, le soir où Johnny est mort, là, il n'a pas pu voir son père et l'infirmière lui a barré l'entrée de la chambre. Il en a été extrêmement affecté, il a voulu lui remettre une lettre, elle n'a pas voulu la prendre et donc ça s'est très mal passé ce soir-là.
L'infirmière n'a pas voulu la prendre.
Oui.
Il en a fait une chanson d'ailleurs.
Et il en a fait une chanson, dont
on entendra un extrait tout à l'heure.
Et donc Johnny n'a jamais eu cette lettre. Et Laura, par contre, elle a eu un traitement plus dur parce qu'elle s'entendait moins bien avec sa belle-mère et elle a pas pu voir son père déjà plusieurs jours avant sa mort.
Léna Luton, on parle de millions d'euros, peut-être de dizaines de millions d'euros. D'ailleurs, est-ce que c'est possible de répondre à cette question? Peut-on vraiment évaluer la fortune de Johnny Hallyday? Et si finalement, il n'y avait pas plus de dettes qu'autre chose? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
L'affaire Johnny, telle qu'on ne vous l'a jamais racontée.
Puisqu'au matin, il me faudra partir. Que vais-je laisser de mon nom?
C'est beaucoup plus qu'une simple querelle d'héritage, que l'histoire d'un emballement médiatique.
Ce que je voulais.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues. Sur RTL.
C'est une guerre totale que nous décrit notre invitée, la journaliste Léna Luteau. La guerre que se livrent les aînés de Johnny Hallyday, David et Laura, et leur belle-mère Laetitia. Alors, est-ce que c'est seulement une question d'argent?
C'est pas une question uniquement d'argent. On parle d'un patrimoine d'à peu près 100 millions d'euros, donc bon, c'est quand même beaucoup. Mais c'est aussi une question de droit moral. C'est-à-dire, la question, c'est qui va porter le flambeau de la carrière posthume de Johnny Hallyday? Qui va décider du choix des photos, des pochettes d'albums, de compiles? Qui c'est qui va dire oui à un biopic au cinéma? Qui c'est qui va dire oui ou on va mettre de la musique de Johnny sur des spots publicitaires? Tout ça, vous gagnez pas d'argent, mais vous donnez votre avis. Et pour l'instant, ce droit moral, il est 100% dans les mains de Laetitia.
Si on compare par exemple au travail que font les fils ou l'un des fils de Claude François, c'est exactement ça, c'est-à-dire donner son accord à tel film qui va adapter, raconter la vie de Johnny, éventuellement la détourner un petit peu. C'est ce que vous nous décrivez,
ouais, c'est ça. Exactement ça.
Ou l'adaptation d'une chanson, la reprise d'une chanson par un autre artiste.
Voilà, Clo-Clo Junior, il s'est beaucoup impliqué dans le film sur son père. Mm-hmm. Il s'est beaucoup impliqué aussi sur le show de hologramme où il y avait son papa. Mm-hmm. C'est tout à fait ça.
D'accord. Est-ce qu'on sait précisément, vous dites 100 millions d'euros, mais c'est, quels sont les biens connus là aussi? Est-ce qu'on peut faire une liste de ce que l'on connaît, des biens qui appartiennent à Johnny Hallyday et potentiellement à ses ayants droit?
Oui. Alors, on estime le patrimoine à peu près minimum de 100 millions d'euros. Ça se divise en deux. Vous avez le patrimoine immobilier pour à peu près 70 millions d'euros. Mmh. Et là, ça concerne 6 propriétés. Donc, vous avez 2 propriétés aux États-Unis. Et les 4 autres répartis entre la métropole Paris et Saint-Barth. Ensuite, vous avez les revenus musicaux qui, eux, se divisent en deux. Vous avez les droits d'auteur, de compositeur et d'éditeur de Johnny Hallyday qui sont récoltés par la SACEM et redistribués à ses héritiers. Mmh. Et puis, vous avez le vrai trésor de guerre qui se compte en millions d'euros et qui sont donc les royalties que touchait Johnny en tant qu'interprète. Et ça lui venait de ses maisons de disques.
Et tous ces biens de Johnny Hallyday, ils étaient connus à sa mort ?
Non, c'était le gros problème des avocats de Laura, qui en janvier, quand leur cliente s'impatientait, eux, ils ont dû à toute vitesse essayer d'avoir une idée du patrimoine. Et en fait, ils sont partis de zéro. Et encore aujourd'hui, on découvre des choses. Dans mon livre, je raconte comment j'ai trouvé cet été, et complètement par hasard, deux nouvelles maisons à Saint-Barthélemy qu'ils possédaient en copropriété avec le milliardaire du foot, Monsieur Darmon.
Ils se sont tant aimés, c'est le titre de ce livre chez Albin Michel. Comment vous les trouvez, ces maisons? En suivant les fans, c'est ça d'abord ?
Alors, les maisons, ça vient des fans qui... Il y a vraiment des fans qui sont des vrais détectives. Hein. Mmh. Et donc, il y avait deux dames qui connaissaient visiblement très bien Saint-Barth et qui étaient sur le compte Instagram de Tim Lorada, qui était le compte où tous les spécialistes de l'affaire se retrouvaient. Et donc, un jour, ces dames ont dit « Mais nous, on remarque qu'il y a cette maison qui ressemble étrangement à la grande villa Jade de Johnny et de Laetitia. Simplement, elle n'avait pas les documents, elle n'avait pas tout le reste, parce que ça a été très compliqué à trouver, parce que les numéros de lot ne correspondaient pas. »
Et vous l'avez trouvé comment? En regardant sur Google Earth, c'est ça?
Alors, les documents, je me les suis procurés. Ouais. Et puis après, j'ai un mari qui est très fort en Google Earth.
C'est toujours utile d'avoir un mari fort en Google Earth.
Et donc, on a passé une soirée. Moi, j'avais les photos. J'avais le dessin, si vous voulez, des lots. Ouais. Et donc, on a superposé ce que lui trouvait sur Google Earth à ce grand papier, comment on appelle ça, papier calque.
D'accord. Ouais, 100 millions d'euros, vous dites. C'est une évaluation, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement beaucoup de dettes aussi? Des dettes fiscales notamment, ça représente combien de millions d'euros les dettes fiscales de Johnny?
Alors ça, c'est le gros problème de Laetitia, c'est est-ce qu'elle est si riche que ça? Parce que Johnny a laissé, et elle ont des très importantes dettes fiscales, dont un redressement de 15 millions d'euros qui n'est toujours pas payé à Bercy. Et puis ensuite, en ayant 6 propriétés, vous avez d'énormes charges de gardiennage, de taxes foncières, de réparation des maisons. Donc tout ça, pour l'instant, ça paraît pas très équilibré.
Alors, dans ces conditions que vous venez de nous décrire, est-ce qu'un accord entre les deux clans est possible? Beaucoup de femmes qui sont de fans et de femmes aussi qui sont exaspérées par ce grand déballage, l'espèrent.
RTL.
Mon oncle veut dire, tiens, ça serait génial de faire une blague à Johnny, faire que son fils vienne jouer de la batterie avec lui.
C'est pas le temps.
Vous savez, un héritage, c'est la preuve qu'on a existé pour un parent. C'est surtout ça.
La curiosité est un vilain défaut.
Je demande simplement, en fait, d'avoir un droit de regard, son image. Et personnellement, sur ce qui me liait avec lui, c'est-à-dire la musique.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
C'est pas l'argent qui me fera tenir en place.
David Hallyday, voilà exactement ce qu'il demandait avec sa sœur Laura ce matin devant le tribunal de Paris, audience en référé pour obtenir le gel des royalties de leur père et aussi l'accès à un certain nombre de documents, décision qui sera rendue le 18 décembre prochain. Léna Luto, je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro, que vous enquêtez depuis de longs mois sur cette affaire. Moi, j'aime bien chercher des solutions dans la vie. Est-ce que les deux clans peuvent se mettre d'accord? Ce qui ferait sans doute du bien à beaucoup de fans aussi.
Ouais. Ah oui, les fans, ils sont inconsolables et ils ne rêvent que de ça. Alors, un accord peut intervenir à tout moment, peut-être plus facilement avec Laura qu'avec David, mais pour l'instant, il n'y a pas le début de la queue d'une cerise de vraies négociations sur le fond.
Qui négocie pour Laetitia? Il y a un avocat qu'on surnomme Triple A. Alors ça m'a intrigué. Pourquoi il est surnommé Triple A?
Il est surnommé Triple A parce qu'il s'appelle Ardavan Amir Aslani. Donc AAA. Et il a les lettres qui sont brodées sur les initiales qui sont brodées sur ses chemises.
Et donc c'est l'avocat de Laetitia. Il joue un rôle important?
Il joue un rôle extrêmement important parce que c'est lui qui a remis d'équerre les finances de Johnny et de Laetitia. C'est lui qui a réglé les problèmes avec les assureurs quand Johnny avait dû annuler la fin de sa tournée 66. C'est lui qui l'a défendu contre Adeline Blondiot qu'il avait traînée en procès. C'est lui qui a aidé au montage financier qui sert de bouclier fiscal aujourd'hui à Laetitia. Donc c'est quelqu'un d'absolument central dans cette affaire.
Et en juin, ce fameux avocat Aslani a tenté un rapprochement avec les représentants de Laura. Pourquoi ?
Fin juin, début juillet, il a tenté un rapprochement avec les avocats de Laura parce qu'il avait appris que Laura avait demandé de l'argent au roi des forains, à Marcel Campion. Et donc, il s'est dit, c'est le moment de commencer les négociations. Elle doit être en difficulté financière. Et donc, ils ont discuté. Il s'est beaucoup dit, mais sans preuve, qu'il lui proposait la maison de Main de la Coquette et un certain pourcentage de revenus annuels parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Laura touchait de la part de son papa depuis 14 ans 5000 euros par mois. Et donc quand Johnny est mort, la banque a fait comme pour toute personne décédée, a arrêté ce virement, mais simplement Laetitia n'a pas choisi de le continuer.
Et David, lui, il a besoin d'argent aussi.
Et David, lui, il a absolument pas besoin d'argent. Il a sa propre carrière et puis il a son épouse qui est une héritière pastor, qui est une grande famille de Monaco. Donc lui, il est à l'abri financièrement. Mais lui, c'est un grand musicien, un grand mélodiste qui a travaillé avec son papa.
Son album, d'ailleurs, l'album qu'il a composé 100% pour son père. Et l'album qui a été le plus vendu de Johnny,
oui,
je crois.
Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Donc lui, David, ce qu'il veut, c'est participer à la gestion posthume de son papa, c'est-à-dire le droit moral. Et puis, il voudrait aussi les droits de quelques albums qui lui tiennent à cœur.
Donc, il y a un moment où des négociations s'ouvrent. Et là, vous nous dites que pour l'instant, on en est très loin. Donc, ça a été interrompu. Pourquoi ça s'est arrêté ?
Alors, les négociations donc, avec Laura ont commencé cet été. Il y a eu un début de négociation avec David fin septembre. Et puis, ça s'est très brusquement arrêté au moment où Laetitia était à Paris pour faire la promotion de son album. Parce que les avocats de Laura et David se sont rendus compte qu'en fait, en acceptant donc, l'héritage, ils acceptaient les dettes de Johnny. Or, ils se sont aperçus qu'il y avait un bouclier fiscal qui protégeait Laetitia, une organisation à l'américaine, et que donc, pendant 10 ans, le fisc peut réclamer n'importe quelle somme qui concerne Johnny et Laetitia à Laura et David. Et quand vous savez qu'il y a déjà 15 millions de redressements, qu'il faut rajouter les droits de succession et qu'on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres dossiers à Bercy, ils ont dit, mais nous, on ne peut pas financièrement assumer toutes ces dettes. Et pourquoi ça serait qu'à nous de les payer ? Et donc, ils ont demandé à Laetitia si elle pouvait faire une caution bancaire, ce qu'elle a refusé. Et donc, les négociations se sont arrêtées.
Ils se sont tant aimés, publié chez Albin Michel. Alors encore d'autres révélations à venir sur ce dossier. Et puis juste après, une icône planétaire, on découvre le destin de Nelson Mandela sur RTL.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et toujours avec nous la journaliste Léna Luteau qui a enquêté sur la querelle d'héritage qui déchire la famille de Johnny Hallyday depuis sa mort il y a bientôt un an. Dans votre livre « Ils se sont tant aimés », vous dites que Laetitia Hallyday a organisé son insolvabilité. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ?
Oh, bah c'est très simple. C'est que quand vous mettez... Laetitia a bénéficié d'un montage où tous les biens de Johnny, ou presque, ont été placés dans des trusts. Et les trusts, si vous demandez à des avocats spécialisés, ils vont vous expliquer que ce sont comme des coffres-forts. Et une fois que ces biens, l'argent ou les maisons sont dans ces trusts, vous ne pouvez plus les en sortir. Et la particularité de ces trusts, c'est qu'ils payent d'éventuelles dettes et qu'ils mettent à l'abri Laetitia du fisc français.
On n'a pas encore parlé de Jade et Joy, les deux petites filles. Elles ont hérité de quelque chose, elles ?
Non, Jade et Joy, elles sont déshéritées au même titre, exactement que Laura et David.
Laetitia dit le contraire. Hein.
Oui, mais elle simplement, moi j'ai les documents. Mmh. Et si vous regardez, vous lisez le testament de Johnny, ensuite vous lisez les papiers du trust, vous verrez que c'est tout à fait anormal. C'est-à-dire, dans 10 sur 10 aux États-Unis, vous avez des pages et des pages de description de tout ce qui est prévu pour les enfants, c'est-à-dire année par année. Quand ils étudient, ben, on va leur payer leur scolarité. Quand à 30 ans, ils fondent une famille, on va leur payer une maison. Et ça, sur deux générations. Là, vous avez deux lignes. Vous avez qu'on va leur payer leurs frais de scolarité, vous n'avez pas de montant, vous n'avez aucun détail, et qu'on va leur payer leurs frais de santé, parce qu'aux États-Unis, ça peut coûter une fortune, et pareil, il n'y a pas de montant.
Dernière question, dans ce dossier, on a toujours l'impression qu'il y a, bon, c'est pas seulement l'impression, il y a deux clans, et forcément, on se dit que les journalistes qui enquêtent font partie d'un des clans. Est-ce que c'est une enquête à charge contre Laetitia Hallyday que
vous avez publié ? Au contraire. J'ai reçu les félicitations de ses avocats, de ses communicants, pour justement une grande objectivité. Non, il faut être le plus impartial possible. La seule différence, c'est que tous les secrets sont du côté de Laetitia. Et tous les mystères. C'est-à-dire, j'ai cherché sur Laura, tout le monde sait qu'elle a eu des problèmes de santé, alcool, drogue et tout ça. Vous regardez sur David, j'ai cherché. Je me suis dit, il est à Monaco, il vit à Londres, j'ai peut-être trouvé quelque chose au niveau fiscal. J'ai rien trouvé, tout était légal. Et donc, au contraire, toutes les maisons qu'on trouve, tout ça, tout ce qui n'était pas connu, bah, c'est toujours du côté de Laetitia.
Merci beaucoup Léna Luteau. Ils se sont tant aimés. C'est donc le titre de ce livre, de cette enquête qui est publié chez Albin Michel. Merci.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Anaïs Bouton, Thomas Hugues.